pardon de ce petit retard, mais nous allons entrer immédiatement dans le vif
Bonjour.
Du sujet. D'abord, moi, je voudrais dire que je suis très content de partager ce moment avec Patrick de Carolis, car vous notez bien que nous connaissons depuis longtemps. Nous avons été journalistes l'un et l'autre dans différentes chaînes de télévision. Patrick est un grand journaliste, présentateur, producteur d'émissions que l'on retrouve encore sur l'antenne de France 3, Des Racines et des Ailes, une émission emblématique de France 3. Donc nous le connaissons depuis longtemps, il a été mon président, puisque c'est grâce à lui que je suis arrivé ici à Bordeaux il y a maintenant 5 ans. Et que j'ai découvert cette ville avec le plus grand plaisir. Donc je suis heureux de l'accueillir dans cette ville.
Merci.
Voilà. Cela étant dit, venons-en maintenant à sa carrière d'écrivain. On l'a découvert dans l'édition avec un livre de conversation avec Bernadette Chirac il y a quelques années. Et puis on l'a découvert romancier avec Les Demoiselles de Provence en 2005, déjà dans sa région natale. D'Arles, et puis poète avec un très joli recueil qui s'appelait Refuge pour tant d'orages, paru en 2009, je crois, il y a 2 ans à peu près.
Oui, novembre 2009.
Voilà. Alors, il nous arrive avec un nouveau roman qui est paru il y a quelques mois et qui s'affiche déjà et s'affirme déjà comme un beau succès d'édition et de librairie et que les perspectives de l'été devraient encore soutenir et renforcer. Un très joli livre, La Dame du Palatin, paru chez Plon. Moi, je veux dire que j'y ai pris de grand plaisir. Je me suis plongé il y a quelques semaines et je me suis régalé. Alors, d'abord, je vais demander pourquoi ce goût pour l'histoire, Patrick ?
Je ne sais pas. Je pense que ça vient de mon enfance. Je pense que ça vient de la ville qui m'a vu naître, Arles. Saint-Exupéry disait on est du pays de son enfance. Moi, je suis arlésien. Arles, c'est une ville éminemment historique. C'est une ville qui a été, boostée par les Romains, avec des vestiges magnifiques. Donc, je pense que ce goût de l'histoire vient de là. Moi, les premiers personnages dont on m'a parlé, c'est César, c'est Marius, non pas le personnage de Pagnol, mais Marius, celui qui a construit le canal, parce que la région d'Arles, à l'époque où se situe mon roman, c'est-à-dire 1er siècle après Jésus-Christ, c'est une terre de marécage. Arles est un fleuve, est un port fluvial. Et pour pouvoir naviguer sur le Rhône et retrouver la Méditerranée, bâtir un canal. Et c'est Marius qui va le bâtir. Donc, ce sont des personnages qui m'ont habité. C'est mon terrain d'enfance, mon bac à sable, ce sont les arènes, c'est le théâtre antique, un des tout premiers théâtres antiques en pierre bâti par les Romains, dans l'Empire romain, a été bâti à Arles. Voilà, donc je pense que le contact avec cette pierre a dû me marquer profondément.
Alors, on se réveille quand même pas un matin en disant, tiens, je vais faire un roman sur Paulina, qui va devenir, on va le voir au cours du roman, un peu plus tard, la femme de notre plus grand philosophe, Sénèque. Ça naît comment, ça ?
Ça naît tout à fait par hasard. Comme tous mes livres, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'ils sont nés, ils sont le fruit du hasard. Le premier roman historique, Les Demoiselles de Provence, il est né d'une visite que je fais au château d'Angers, sur les traces du duc d'Anjou. Je visite ce château parce que je cherchais un lieu pour Des Racines et des Ailes. Et on me fait visiter cette magnifique salle avec les tapisseries de l'Apocalypse. Et la personne qui me fait visiter cette salle me dit, vous savez, ces tapisseries, elles ont suivi Charles d'Anjou quand il s'est marié en Arles avec Béatrice de Savoie. Bon, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler du mariage de Charles d'Anjou à Arles. Mais je commence à lire derrière et je m'aperçois qu'en fait, ils se sont mariés à Aix. Mais j'avais fait la connaissance de la quatrième fille, Béatrice, de la quatrième fille du comte Raymond Béranger V, qui avait quatre filles, Marguerite, Éléonore, Sancy et Béatrice. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la famille du comte Raymond Béranger V et que j'ai voulu raconter cette histoire. Même hasard pour Paulina. Je m'intéresse à Sénèque, je lis Sénèque, comme d'autres peuvent lire Montaigne ou d'autres philosophes. Et en lisant Sénèque, on s'intéresse à Tacite, parce qu'il y a beaucoup de clés de Sénèque dans Tacite. Et Tacite parle explicitement de Paulina. Il dit « cette belle Arlésienne, femme de Sénèque ». Et je ne savais pas que Paulina avait été la femme de Sénèque. Je ne savais pas que Sénèque avait comme deuxième femme une Arlésienne. Et à partir de là, je commence à m'intéresser à ce personnage, à lire des livres, à regarder, à me pencher dans les ouvrages des historiens, notamment Grimal, notamment Vane, qui ont écrit sur cette période ou sur Sénèque, pour essayer de trouver trace de Paulina. Je travaille avec un documentaliste à qui je confie le soin d'aller un peu plus loin dans les recherches, et finalement, on s'aperçoit que Paulina est la fille de Paulinus Pompeius. Et Paulinus Pompeius, on connaît son existence tout simplement parce que, pour deux raisons. Paulina est née en 26 après Jésus-Christ. Le grand-père de Paulina avait opté pour César quand César s'est battu avec Pompée à Massilia, à Marseille. Et pour vaincre Pompée à Marseille, il a besoin d'une flotte qu'il fait construire à Arles, une flotte à fond plat. Et Arles était spécialiste, justement à cause des marécages, de ces bateaux que l'on construisait avec des fonds plats. Et cette famille de Paulinus Pompeius, au départ, penche pour Pompée, et puis un peu pour César, et puis pour Pompée, et puis finalement, ils se mettent dans le camp de César. César gagne contre Pompée, et pour remercier, eh bien, il va faire deux choses. Il va enrichir la famille. Ce sont des négociants, ce sont des armateurs. Il va donner le titre de chevalier équestre, c'est important à l'époque. Et puis, il va gratifier la ville des bienfaits de l'empereur, c'est-à-dire qu'on va la nommer sixième colonie romaine. Et à partir de là, on va enrichir cette ville. Et si aujourd'hui, Arles est la plus grande commune de France, en termes de territoire et de superficie, c'est grâce à César et au fait que cette ville s'est ralliée au camp de César.
Patrick, on va revenir à Paulina tout de suite, mais tu as dit à l'instant que tu avais fait appel à un documentaliste pour écrire. Et je dois dire que c'est une des choses qui m'a frappé tout au long de la lecture de ce livre, c'est que, évidemment, on rentre dans cette histoire romaine du premier siècle après Jésus-Christ, où on croise, et on le verra, une multitude de personnages, et à chaque fois, ces personnages sont resitués dans leur époque, dans leur vie quotidienne, etc. Donc il y a une formidable et formidable documentation, je trouve. Et ça, c'est un travail dans lequel tu t'es plongé avec un documentaliste.
C'est l'essentiel, et en même temps, c'est anecdotique. C'est essentiel parce que vos personnages vont évoluer dans un décor quotidien qu'il faut connaître, qu'il faut avoir. Et il ne faut pas faire d'erreur à ce niveau-là. Par exemple, ma crainte, c'était, je vous disais tout à l'heure que j'avais passé mon enfance dans les arènes d'Arles. Les arènes ne sont pas construites à l'époque où Paulina naît. Donc si moi j'imagine l'évolution de mon héroïne autour des arènes, je fais fausse route immédiatement. Donc j'ai besoin d'avoir les informations réelles et donc de travailler avec quelqu'un, des historiens qui vont me dire « Attends, là, à cette époque-là, non, il n'y a que le théâtre qui est construit. À cette époque-là, la ville n'est pas comme ça. À cette époque-là, on travaille. À cette époque-là, les règles sociales sont comme ça. » Voilà, à cette époque-là, voilà ce qu'on mange, voilà ce qu'on boit, comment on se vêtit, voilà comment ça s'appelle. Donc toute cette information-là, on va la chercher, on la met en fiche. C'est très simple, hein. J'ai la fiche de la nourriture, j'ai la fiche des codes sociaux, j'ai la fiche des vêtements, j'ai la fiche de l'architecture. Et puis ça s'arrête là, après... Le romancier va à l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi ? C'est-à-dire de faire vivre ces personnages.
Alors les personnages, ils sont nombreux, qu'on croise. D'abord, il y a cette famille qui est le noyau dur de ce roman et qui évidemment va évoluer dans un monde politique difficile, lourd, etc. On va y revenir. Alors il y a Paulina, cette jeune fille, parce que c'est une jeune fille au début du livre.
Elle a 12 ans. Je commence le livre, elle a 12 ans.
Elle est très très jeune, elle va être mariée de force.
À
par son père, un rustre, Taurus rustre, je vais dire, qui lui fait un enfant, puis un deuxième, qui meurt en couche. Le premier disparaît, puis son mari part et disparaît dans une expédition maritime. Et
oui,
elle se retrouve veuve, très jeune, sans enfant.
De Turquie.
Hein, oui. En gros, elle se retrouve jeune, elle se retrouve veuve, très jeune.
À 20 ans.
Sans enfant.
Oui.
Elle a subi quelques années cet époux. Et puis tout d'un coup, elle découvre ce qu'est l'amour, le plaisir avec un jeune militaire, si je ne m'abuse, ou un jeune...
Non, c'est un jeune affranchi.
Un jeune affranchi, pardon. Voilà,
c'est un des collaborateurs
voilà, de son père. Elle est fille, effectivement, tu viens de le dire, d'un riche homme d'affaires, en fait, à Arles, marchand, négociant. Elle a un frère auquel elle est très attachée. Et puis, cette jeune affranchie va justement quitter Arles, je crois, je me rappelle bien, parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. Elle va quitter Arles pour aller en Égypte, gérer un peu les affaires du beau-père. Et elle, à un moment, elle va partir pour aller le retrouver. Et puis, dans une traversée homérique, elle fait naufrage. Je fais un raccourci rapide. Hein.
Oui, alors... Elle
se retrouve en Corse.
Le père de Paulina est nommé préfet de la Nonne. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces informations sur la famille de Paulina Pompeius. Préfet de la Nonne, c'est un poste très très important parce que il dirige toute l'administration qui s'occupe du ravitaillement de la ville, de Rome, de l'Urbs, comme on dit à l'époque. Donc c'est un poste éminemment stratégique, important et prestigieux. Et il demande à son épouse de la rejoindre. Son épouse n'aime pas Rome. Elle n'aime pas Rome, elle n'aime pas ce qui s'y passe, elle n'aime pas les rumeurs de la ville. Elle préfère rester dans Arles et elle prétexte le fait de continuer à s'occuper des affaires arlésiennes du mari. Et donc, elle envoie sa fille en disant « c'est à toi à aller t'occuper de ton père, de la maison de ton père ». Et donc, Paulina prend un bateau, elle monte sur le Gaïa, qui est un bâtiment qui appartient à son père, et au beau milieu du voyage, le vent, le grégal se lève, et ils essuient une tempête, et ils se protègent en Corse, à ce moment-là. Et là, en Corse, vit depuis 7 ans, en exil, un homme qui est Sénèque. Sénèque a été exilé par Claude. Il vit là depuis 7 ans. C'est en Corse qu'il va écrire, d'ailleurs, sa pièce de théâtre, Agamemnon, que l'on joue actuellement, d'ailleurs, aux Français. C'est là qu'il va écrire Médée, c'est là qu'il va écrire beaucoup de livres, et notamment des Clémences. Et c'est là qu'il va écrire la Clémence à Claude, d'ailleurs. Bon, bref. Je l'ai fait se rencontrer en Corse. Là, elle va y passer 3 semaines, le temps qu'on restaure un peu et qu'on retape le bateau. Et elle va partir à Rome avec un message de Sénèque qui a très envie de revenir à Rome, de reprendre sa place dans la cité et dans l'Empire. Et donc, Paulina profitera d'une occasion pour rencontrer Agrippine et demander à Agrippine de faire revenir Sénèque. Agrippine pensait déjà à Sénèque. Elle pensait à Sénèque parce qu'Agrippine n'a qu'une envie, c'est que son fils, qui n'est pas encore Néron, qui s'appelle Lucius Domitius Aerno Parbus, il sera Néron à l'âge de 17 ans. Elle n'a qu'une envie, c'est qu'il devienne le fils de Claude. Et donc, elle veut que Claude, l'empereur, l'adopte. D'abord, elle va se marier avec Claude. Elle est sa nièce, mais elle se marie avec lui. Elle devient Augusta, sérénissime. Elle fait en sorte que Claude adopte son fils, alors que Claude a déjà un fils, qui s'appelle Britannicus. Mais Britannicus a 4 ans de moins que Néron. Donc en adoptant le fils d'Agrippine, il sait qu'il va faire monter sur le trône après lui Néron. Il s'en rend compte d'ailleurs. Et quand il s'en rend compte et qu'il commence à douter de voir qu'il ne se comporte pas bien avec Britannicus, Agrippine fera tuer, assassinera, empoisonnera Claude. Et elle pense qu'à une chose, c'est de porter au pouvoir Néron. Pour cela, avant d'avoir tué Claude, elle fera en sorte que Claude accorde la main de sa fille à Néron. Donc Néron épousera la fille de Claude, Octavie. Il l'épouse contraint et forcé parce qu'il ne l'aime pas. Elle a quelques années de moins que lui. Lui n'a qu'une envie, c'est de partager ses nuits et ses journées avec une esclave qui s'appelle Actée. Puis après, il n'aura qu'une envie, c'est de passer ses nuits avec Poppée. Et donc, à un moment donné, il tuera son jeune demi-frère, Britannicus.
On va venir dans cette folie sanguinaire, oui, parce que d'accord. C'est une vraie folie sanguinaire. Oui, ça, c'est un déchaînement d'empoisonnement, de condamnation à mort, de suicide obligatoire, obligé, etc. Mais il faut quand même souligner que Sénèque devient le précepteur, quand même.
Oui, alors
ça, c'est un tournant aussi important, quand même.
Justement, donc, c'est Agrippine qui fait revenir Sénèque à Rome et qui lui offre le poste de précepteur pour qu'elle s'occupe et qu'elle enseigne les valeurs et qu'elle fasse en sorte qu'il soit un grand empereur. Ce qu'il sera, d'après les historiens, ce qu'il sera les premières années de son règne. Et effectivement, Sénèque est très satisfait de son jeune élève. Ce jeune élève est éduqué par deux hommes. Il est éduqué politiquement par Sénèque et il est éduqué militairement, stratégiquement par Burrus. Et Burrus et Sénèque s'entendent remarquablement bien et donc font de Néron un grand empereur au début. Et puis, petit à petit, après avoir été le jouet de sa mère, Agrippine, il va devenir le jouet d'une autre femme, Poppée. Et à partir de là, les choses vont aller se dégradant.
Là, on voit toute la trame historique, c'est-à-dire effectivement des personnages, des recherches historiques. Mais il y a de temps à autre, ici ou là aussi, la main du romancier, on le voit bien. Et il y a quelque chose qui me plaisait beaucoup, m'a plu beaucoup, c'est l'histoire du parfum, qui est un peu finalement, qui vient comme un fil rouge dans ce roman, parce qu'à chaque fois, on retrouve l'idée que ce parfum a des responsabilités importantes dans les relations ou dans les drames qui se trame.
Oui, alors il ne faut pas aller trop loin dans l'histoire du parfum, parce que sinon je vais donner une clé, une clé du livre. Mais c'est vrai que le parfum joue un rôle important. Je me suis... je vais bouler les étapes, là. Comment m'en sortir Néron, quand il rencontre pour la première fois Paulina, est subjugué par son parfum. Et Paulina fait fabriquer son parfum à Arles par une femme que l'on dit être une unguentaria, c'est-à-dire on appelait ça comme ça, une parfumière, fabricante de parfums, une unguentaria. Et Néron va vouloir la faire venir. Il l'a fait venir, d'ailleurs, à Rome pour retrouver ce parfum qu'il veut offrir à Actée, son esclave, et après offrir à Poppée. Donc le parfum est quelque chose de très important. Je me suis toujours demandé pourquoi, au moment où Néron demandait à Sénèque, qui s'était retiré du pouvoir, de se donner la mort, ce qu'il fait, pourquoi Paulina, qui elle-même à ce moment-là se taille les veines pour partir avec son mari, pour partir dans la mort avec son mari, pourquoi à ce moment-là Néron demande à un de ses centurions, à un de ses médecins, de ranimer Paulina et de la sauver. Alors, Vous lirez le livre Eh bien oui. Là, moi, j'y donne une clé, j'y donne une raison, je donne une explication. C'est peut-être pas l'explication historique. D'ailleurs, il n'y a pas d'explication historique. L'histoire, c'est que l'histoire nous dit que Sénèque meurt, qu'elle veut mourir, qu'elle est rattrapée, qu'on la bande, on bande les poignets, donc on arrête l'hémorragie, et qu'elle va mourir de solitude, d'anémie, 3-4 ans après. On ne sait pas où, d'ailleurs. Ça, c'est l'histoire. Et ça m'a toujours frappé. Je dis, mais pourquoi, alors qu'il ne s'embarrasse pas des vies humaines, pourquoi, après avoir demandé à sa femme Octavie de se donner la mort, et comme elle n'y arrive pas, on la décapite, va-t-il gracier, je dirais, presque Paulina ? Je dis, il y a peut-être une raison. Il n'est pas amoureux, il n'est pas... Bon, aucune, en tout cas, raison historique à ce geste-là de clémence. Alors peut-être il y a une version politique de la chose, c'est que si Sénèque se retire du pouvoir, si Sénèque à un moment donné met un arrêt à sa carrière politique de conseiller de Néron, c'est qu'il en a assez de voir que Néron innocente les vautours et condamne les colombes. Il en a assez de tout ça. Et il se retire. Et toute sa vie, il aura essayé d'enseigner la clémence à Néron. D'ailleurs, clémence qu'un jour, il l'accorde à un résistant britannique, puisque la conquête romaine va jusqu'en Grande-Bretagne, et qu'il y a des résistants. Et il y a le chef de la résistance qui est ramené à Rome, Caritacus, qui dit à ce moment-là, d'ailleurs, on va le condamner, on va le faire mourir, et il se tourne vers Néron et il lui dit, mais si je n'avais pas été le résistant, tu n'aurais pas été glorieux. Donc si j'avais accepté immédiatement, sans me battre, eh bien, tu n'aurais pas vaincu avec gloire. Et à ce moment-là, Néron l'épargne, et l'épargne avec toute sa famille. Sénèque a toujours essayé de lui enseigner la clémence, ce qu'il n'aura que rarement. Là, peut-être l'a-t-il eu avec Paulina. Mais en tout cas, ce n'est pas la thèse que je retiens, j'en retiens une autre qui est beaucoup plus romanesque.
Est-ce qu'elle a joué un rôle essentiel dans la vie de Sénèque, cette Paulina, sa femme ?
Autant que l'on sache, oui, c'est quelqu'un... Il y fait référence deux fois dans des lettres, les lettres qu'il écrit à Lucilius. Il fait référence au sentiment d'apaisement qu'elle lui procure. Elle est là, elle est sa conscience. D'ailleurs, à un moment donné, ça ne se passe pas très bien entre eux parce qu'il accepte le fait que Néron veuille tuer et tue sa mère, Agrippine. Et s'il accepte, c'est pour éviter une guerre civile. Et elle lui reproche cette attitude-là. Elle lui dit, mais un meurtre est un meurtre. Il lui dit, non, c'est pas tout à fait exact, dès lors que l'on sauve d'autres vies humaines. Et donc là, il y a un tiraillement entre eux. Donc elle essaie d'être en permanence cette conscience auprès de lui. Et il en a besoin parce que il est un peu dual, il est complexe. C'est un homme qui veut absolument... être philosophe, être le sage, aller vers la raison, ne vivre que de raison, et en même temps, il est auprès d'un monstre. Et il va essayer, tout en disant qu'il veut changer, éduquer, espérer, il se rend compte que le monstre est vraiment un monstre. Et donc, il a cette double attitude. Il dit, par exemple... dans un de ses livres, cette phrase que je vais citer de mémoire, « Il ne faut jamais envier des fonctions haut placées parce que la cime est toujours proche d'un gouffre. » Vous savez, c'est l'image du Capitole et de la roche carpéienne. Et lui-même n'a fait que ça toute sa vie. Il a essayé d'envier les postes les plus importants pour être auprès du pouvoir, et il y est arrivé puisqu'il est le conseiller de l'empereur. Donc vous voyez, il est en pleine... Il dit qu'il ne faut pas s'enrichir et qu'il faut être distant avec les richesses de ce monde, mais c'est l'homme le plus puissant et le plus riche après l'empereur. Il a 5 propriétés, il a des terres en Égypte, il a des terres partout en Italie, il en a en France. Enfin, il est l'homme qui a des revenus considérables. Donc il est en permanence en porte-à-faux un petit peu avec ce qu'il écrit. Et sa femme le cadre, et sa femme le remet à sa place et a un rôle éminemment très important.
Alors autour de Sénèque, Paulina, Agrippine, Néron, il y a toute une galerie de personnages. Et notamment le frère de Paulina, qui est un personnage qui compte beaucoup finalement dans la vie de Paulina.
Et je voulais il compte après.
Après, oui.
Ouais. Pas au début, pas dans son adolescence.
Et je voulais te demander pourquoi. On a le sentiment tout d'un coup que quand elle part à Rome, elle oublie complètement et sa mère et ceux qui sont restés à Arles, notamment sa mère et sa servante, par exemple.
Ah non, parce que elle prend des nouvelles. Alors c'est vrai que je n'entretiens pas de correspondance, par exemple, ou je n'entretiens pas de relations. Mais elle n'a qu'une envie, c'est que après la mort de Sénèque, c'est de retrouver cette Arles qu'elle a connue. Où elle a été extrêmement heureuse jusqu'à l'âge de 12-14 ans. Dès lors qu'elle devient nubile, elle est mariée. Et à partir de là, elle a de moins bons souvenirs, parce qu'elle est mariée à un homme qui n'est pas le bon. C'est très important, pour ceux qui ont lu ou pas lu le livre encore, de savoir que lorsque Paulina rencontre Sénèque, elle a 23 ans. Il en a 50. Et il fallait, pour moi, pour que la rencontre soit fusionnelle, intellectuellement, pas forcément physiquement, mais intellectuellement, ça y est, ils se sont rencontrés. C'est qu'il fallait qu'ils aient à peu près la même vie dans la balance, dans les plateaux de la balance. Et lui a 50 ans, elle en a 23. Donc ce qu'elle va vivre... Elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus ramassée, pour que les douleurs soient égales à celles rencontrées par Sénèque. Sénèque a été marié. Sénèque a eu un enfant. L'enfant est mort et la femme n'a pas pu supporter la mort de cet enfant et elle mourra 4 ans après. Donc il a ce deuil, il porte en lui cette souffrance. Et donc il fallait que je donne à Paulina la même souffrance, quelque part, pour que ces deux êtres soient à égalité et parlent le même langage, et qu'à un moment donné, ils aient envie, ensemble, de cet apaisement. Et c'est ce qu'il va se produire. Il y a un moment de sérénité absolument formidable dès lors qu'ils se rencontrent, et c'est ce qui va se passer après. Ils ont envie de vivre ensemble. L'histoire ne dit pas si ils sont de grands amants et si les nuits sont extrêmement torrides. Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait fusion intellectuelle de ces deux corps. Il n'y aura pas d'enfants, il n'y aura pas d'enfants de naissance de leur union. Donc c'est très important. Donc avant 23 ans, elle doit avoir vécu une vie qui est aussi dense et aussi importante personnellement que lui en a vécu à l'âge de 50 ans. Voilà.
Alors, il y a aussi, au milieu de tous ces personnages, vivent évidemment dans cette cour romaine, où... alors, j'ai pas, tu l'as dit tout à l'heure, il a tué, machin... J'ai pas fait le compte des meurtres. Mais il y en a un certain nombre, hein, parce que si on fait la liste de tous ceux qui se suicident...
Néron n'est pas le seul, hein. Claude était pareil, Caligula avant lui, Tibère avant lui, enfin, il y a Auguste qui était plutôt...
Oui. Mais enfin là, il y en a quand même un certain nombre, hein, entre les suicides obligés, effectivement les exils, les meurtres, etc. Bon. Et tout ça, extrêmement bien décrit, et ce qui est très bien décrit aussi, ce qui est tout à fait très formidable parce que c'est toutes les fêtes rituelles, les grandes fêtes données par les uns ou les autres, et notamment évidemment à la cour de l'empereur. C'est aussi les grandes incantations aux dieux. À chaque instant, on se réfère aux dieux et on implore les dieux pour tel ou tel, ou on interroge les dieux pour tel ou tel événement qu'on va voir. Et je trouve que là, on est effectivement dans une ambiance tout à fait bien décrite.
On est dans une ambiance païenne où Arles ou Rome sont des lieux, des carrefours de pensée, des courants qui viennent amenés par le commerce ou amenés par les militaires. Par exemple, le mitraïsme, le mythe de Mitra, c'est emmené par les centurions qui reviennent de Perse. C'est un dieu perse qui incarne la valeur, qui incarne le courage et qui est représenté par le taureau. C'est comme ça qu'on arrive à avoir le culte de Mitra après dans nos régions. Alors, pas tellement à Arles, on n'a pas retrouvé de traces de Mitra, mais on a trouvé des traces d'Isis, par exemple. Mmh. Bah, comment sont-ils arrivés? Bah, par justement des voyageurs, par des militaires qui ont ramené ces cultes-là. Il y a déjà, à l'époque, à Rome, une fête que l'on célèbre, qui sont les Saturnales. Et c'est rien d'autre que le carnaval, c'est-à-dire on change de rôle. Les servants deviennent les seigneurs et vice-versa. Donc on est déjà dans le défoulement populaire, où chacun essaie de trouver ce qui l'intéresse, avec plus ou moins de bonheur. Et puis, c'est l'arrivée, à ce moment-là, de la secte Christos. Je dis secte Christos tout simplement parce qu'elle est nommée comme cela à l'époque, c'est-à-dire le courant chrétien, et l'arrivée à Rome d'un prisonnier, de quelqu'un qui doit être jugé par les Romains parce qu'il est romain lui-même, et il est amené à Rome par le frère de Sénèque, et quelque part sauvé par le frère de Sénèque, Gallion, qui est un des deux frères de Sénèque. Sénèque a deux frères. Et Gallion était en poste en Égypte, et quand Saint Paul, est arrêté, il lui sauve la vie en disant « Non, il faut qu'il soit jugé à Rome, c'est un Romain. » Et donc on l'amène à Rome. Il est en résidence surveillée. On a dit que Sénèque et Saint Paul s'étaient rencontrés, aucun des historiens ne l'atteste. Il y a eu un livre fait sur les correspondances de Sénèque et de Saint Paul, mais qui est un livre qui a été écrit, je crois, 6 ou 7 siècles après Jésus-Christ. Donc c'est un faux, mais c'est une œuvre littéraire très belle que j'ai lue, qui est très intéressante, mais qui n'a jamais existé. En tout cas, aucun des historiens que j'ai pu lire, que ce soit Venn, que ce soit Grimal, des gens qui font autorité, ne parle d'une rencontre. Alors en revanche, moi, je me permets d'imaginer la rencontre, non pas de Paul et de Sénèque, parce que ce serait travestir l'histoire, mais de Paul et de Paulina. Et pourquoi le rencontre-t-elle? Parce que tout simplement, après l'incendie de Rome, les chrétiens sont persécutés. Un des jeunes esclaves du couple de Sénèque s'enfuit, va se réfugier dans la secte Christos, et c'est comme ça qu'elle rencontre Saint Paul. Et c'est un passage assez court, mais pour moi très important. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre de deux approches, de deux philosophies. L'une dit vouloir voir le monde à travers la raison, et l'autre dit vouloir voir le monde à travers l'amour. Et Paul dit à Paulina à un moment donné, je connais ton mari, j'en ai entendu parler de Sénèque. Oui, c'est celui qui parle de la raison, mais tu sais, on ne rencontre pas Dieu par raison, on le rencontre par amour. Et en prononçant cette phrase, il met là les fondements du christianisme. Et je termine.
Non, je...
Et à ce moment-là, quand l'incendie se déclenche et que les chrétiens sont persécutés, je fais en sorte que Paul passe une nuit dans la maison de Sénèque, abrité et protégé par Paulina, sans que Sénèque ne le sache. Et il est parti le lendemain matin, sans que Sénèque se soit douté que Saint-Paul ait habité une soirée chez lui.
Patrick, je sais que tu as des obligations ferroviaires. Merci, Patrick. Je pense qu'il y a quelques personnes qui veulent te faire signer cet ouvrage.
Et puis,
alors,
merci à toi.
Rendez-vous dans 2 ans, alors, peut-être.
Voilà.